Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir au sein de la Cour administrative d'appel de Lyon pour répondre à toutes nos questions sur le métier de greffier. Cette interview se déroule dans le cadre de la clinique juridique en partenariat avec la Cour administrative d'appel de Lyon et nous sommes très heureux aujourd'hui d'interviewer deux greffiers au sein de cette juridiction. Tout d'abord, quelle est votre formation, quel est votre parcours professionnel ?
Donc moi, avant tout ça, je suis greffière depuis uniquement le 2 mai 2022. Donc c'est encore la découverte pour moi. Avant ça, je travaillais dans le secteur privé, dans une entreprise de recouvrement. Maintenant, je suis greffière à la Chambre 2 qui est spécialisée sur le contentieux fiscal. Donc il y a quelques notions qui me reviennent en tête de mon ancien métier. Avant ça, j'ai fait des petits boulots d'appoint pour payer les factures. Et j'ai un master de communication humanitaire et solidaire de Lyon 2. Et voilà.
D'accord. Et vous ?
Bonjour. Eh bien, moi, j'ai un bac à l'époque qui s'appelait B, donc c'est un bac économique et social, à la suite duquel j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lyon. Assez rapidement, je suis rentré, enfin assez rapidement après mon diplôme, je suis rentré dans l'administration dite active, à la préfecture de l'Isère, au cabinet du préfet. Et en même temps que je travaillais au cabinet, j'ai préparé le concours de l'Institut régional d'administration de Lyon, parce que j'étais à la préfecture de l'Isère en tant que catégorie B. Et en préparant le concours que j'ai réussi, je suis devenu fonctionnaire de catégorie A et j'ai été nommé chargé des questions d'aménagement du territoire à la préfecture de la Loire, où je suis resté 4-5 ans, avant de rejoindre la Cour en tant qu'attaché d'administration d'État et assistant du contentieux, où je suis resté assistant du contentieux pendant 7 ans à la Cour administrative d'appel de Lyon, ce qui m'a donc vraiment permis de voir un peu le côté solitaire du travail juridictionnel, parce que l'assistant du contentieux, il est amené un peu à accomplir les mêmes tâches qu'un magistrat, c'est-à-dire à étudier un dossier, à faire une note de rapporteur, à faire un projet d'arrêt. C'est à peu près la même chose que le magistrat, à une exception près, bien sûr, c'est qu'il ne délibère pas. Voilà. Et puis au cours de ce parcours, à un moment donné, on m'a proposé pour remplacer un greffier qui était absent. On m'a proposé de prendre un greffe de chambre et en fait ça convenait assez bien à mon état d'esprit de l'époque parce que j'avais une certaine difficulté, on va dire, à travailler en permanence en solitaire. C'est vraiment quelque chose de très solitaire, l'assistant du contentieux. C'est encore plus solitaire que le magistrat parce que les magistrats, ils ont plus de moments de débat collectif. L'assistant du contentieux, il est encore plus isolé que le travail de rapporteur, de magistrat, qui est déjà un travail assez solitaire en soi. Et quand on m'a proposé de devenir greffier, je me suis dit que ça pourrait être une respiration. Et ça l'a tellement été que je suis resté greffier depuis 7 ou 8 ans maintenant, et j'y ai trouvé, mais ça on verra peut-être plus tard, beaucoup d'intérêt.
Très bien, merci. En quoi consiste votre métier ? Quelles sont vos tâches principales ?
Alors, il faut savoir que le greffier, dans toutes les définitions que vous pouvez trouver, nous sommes les garants de la procédure. Donc, tout passe entre nos mains. On est l'intermédiaire entre le greffe et les magistrats et le président de la chambre. C'est un travail d'équipe qui permet de contribuer à l'instruction des dossiers.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je suis totalement d'accord avec Noémie. Le greffier de chambre, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois à l'interface du travail juridictionnel qui est réalisé par les magistrats et du travail de mise en œuvre de la procédure qui est réalisé par les agents de greffe. Et si vous voulez, il fait le lien entre le travail des magistrats et le travail des agents de greffe, mais il est aussi une interface entre l'extérieur et la cour. C'est-à-dire qu'on fait le lien aussi bien dans l'unité de travail que représente une chambre, qu'entre cette chambre et le monde extérieur, c'est-à-dire les parties, les avocats, les experts. Donc on est à la fois cette interface et l'autre dimension, me semble-t-il, la plus importante peut-être, c'est que on est vraiment une tour de contrôle, c'est-à-dire que je vais être un peu provocateur, mais finalement le greffier, son travail consiste souvent plus à contrôler le travail des autres qu'à réellement lui travailler. Alors c'est un peu provocateur parce que contrôler le travail, c'est travailler, mais on a une grosse partie de nos tâches qui consiste à être la tour de contrôle à l'arrivée, c'est-à-dire à l'atterrissage quelque part des dossiers à la cour. Hein, le mot atterrissage, je veux dire, c'est par rapport à la question de la tour de contrôle. Le décollage, ça sera la livraison du produit fini avec la décision juridictionnelle. Donc tout ce qui entre à la cour passe nécessairement par le greffier, que ce soit une requête, un mémoire, des pièces ou un simple courrier d'un avocat, dès lors que ça concerne sa chambre. Il va être un filtre et il va contrôler ce qui rentre. Ensuite, en fonction de ce qui est produit, des mesures vont être mises en œuvre. Alors, si c'est une nouvelle requête, elle va être enregistrée, elle va être classifiée, elle va être rangée dans des catégories. Est-ce que c'est du plein contentieux? Est-ce que c'est de l'excès de pouvoir? Est-ce que ça relève d'une matière de marché public ou d'une matière de domaine, de voirie? Enfin, on va arriver à cerner de quoi nous sommes saisis et à proposer un plan d'instruction au président de la Chambre, si c'est le cas d'une requête, hein, si c'était le cas d'un mémoire, on irait rechercher peut-être d'autres mesures que de chercher un plan d'instruction qui est réservé à la requête, mais un mémoire, c'est pareil, il rentre, on s'en saisit, on essaye de voir est-ce qu'il apporte des choses éventuellement nouvelles qui pourraient faire que on élargisse la procédure à d'autres parties ou qu'on propose une clôture d'instruction au magistrat. Enfin, donc on reçoit des éléments, on met en œuvre des actions que ces éléments nécessitent. Et tout au long de la procédure, on va comme ça intervenir pour arriver à la fin de notre métier de tour de contrôle, qui va être celle dont l'aboutissement est la décision juridictionnelle rendue par les magistrats, et qu'on va, pour le coup, non plus voir atterrir, mais faire décoller, puisque tout ce qui sort de la cour ne sort que par l'intermédiaire du greffier, qui est vraiment en dernier lieu le dernier rempart. Alors, à travers tout ça, on pourrait décliner des dizaines et des dizaines d'exemples. Le rôle de greffier, bah, c'est pas seulement de faire des propositions à un président sur une nouvelle requête, ou c'est pas seulement faire des propositions à un rapporteur lorsque dans un de ces dossiers il y a des pièces ou des éléments qui sont produits. C'est pas seulement de manager son équipe qui est certes petite, mais parfois les équipes les plus petites sont les plus difficiles à faire fonctionner. Parce que quand vous avez une grande équipe, il y a possibilité un peu de réajuster l'équipe par affinité. Nous, on n'a que deux collaborateurs ou collaboratrices, donc forcément, c'est très difficile de recomposer. Mais ça, c'est la parenthèse sur l'aspect management qui existe dans le métier de greffier. Mais ce que je voulais dire
C'est pas
au final.
seulement aussi faire des audiences, être présent,
Voilà.
accueillir le public, ou parce qu'on a l'impression que être un greffier, c'est juste une personne qui est assise derrière un bureau, qui accueille les avocats, les parties. Et en réalité, on organise l'audience, c'est nous qui, enfin, sous proposition du rapporteur public, c'est nous qui organisons les dossiers selon les rôles. Et c'est vraiment aussi une partie importante, mais qui est la plus visible pour le public extérieur, mais qui en réalité représente quoi? Même pas 10% de notre
Ah
travail,
oui, à peine.
à peine.
Oui,
Je sais pas pourquoi.
à peine 10%. Alors après, il y a d'autres choses beaucoup moins visibles, mais dans le travail de greffier, qui pour le coup ne prennent pas 10%, mais beaucoup de temps, c'est par exemple tout ce qui est travail de relecture des arrêts, où le greffier, comme disait Noémie en introduction, qui est garant de la procédure, va aller s'assurer que l'arrêt comporte bien toutes les mentions obligatoires et est conforme au code de justice administrative de ce point de vue-là, et puis qui va aussi aller garantir par sa signature de la minute, c'est-à-dire l'original de la décision juridictionnelle, va aller garantir que la procédure qui est résumée dans l'arrêt correspond bien à la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié de production des parties, on n'a pas oublié de viser des moyens d'ordre public qui ont été soulevés d'office par la Chambre, qu'on a bien toutes les mentions obligatoires sur les parties entendues au cours de l'audience, que ce soit le rapporteur public, le rapporteur ou les avocats. Enfin, tout ce travail de relecture-là, c'est aussi, alors pas un travail de contrôle, parce qu'on ne contrôle pas les magistrats, on contrôle nos agents, mais c'est un travail dans lequel on est associé à un processus de vérification que le produit fini, il est bien conforme aux exigences juridiques.
D'accord. Quels sont à présent les avantages de votre activité professionnelle?
En fait, en étant greffier, on a souvent des semaines qui sont rythmées de la même façon, à savoir qu'on est en audience toutes les 2 semaines. Donc, on sait qu'après les audiences, comme disait Julien, on a la relecture des arrêts, on a au quotidien tout ce qui va, toutes les productions qui vont arriver, que ce soit les nouvelles requêtes, les mémoires ou les nouvelles pièces. Mais malgré ça, même si ces semaines sont rythmées, on n'a pas de routine, puisque les requêtes qui sont présentées devant nous ne sont jamais les mêmes. C'est un métier qui attise pas la curiosité, mais qui nous pousse à vouloir enrichir nos connaissances et nos compétences. Et puis c'est vrai que, alors maintenant je le découvre puisque ça fait 7 ou 8 mois que je suis devenue fonctionnaire, mais malgré les recherches que j'ai faites avant de passer le concours, j'avais pas ce côté-là, enfin, j'avais une idée de ce qu'était un fonctionnaire, et en réalité, une fois dans la peau d'un fonctionnaire, on a un peu l'aspect d'être utile, qui est pas forcément. C'est pas forcément quelque chose qui va de soi, même quand on passe le concours et qu'on a fait des recherches. On n'a pas ce sentiment-là dans tout ce qu'on peut lire et dans toutes les recherches qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'une fois en poste, ça change tout. Donc moi, c'est vraiment l'aspect d'enrichir mes connaissances, de ne pas avoir de routine et de me sentir utile.
Alors sur les avantages de cette activité professionnelle, en fait il y en a énormément. Parce que si on n'avait pas énormément, vraisemblablement j'y serais pas resté. Moi je recoupe un peu ce que disait Noémie. On pourrait penser qu'il y a un caractère répétitif et donc une lassitude qui s'installe à avoir un métier qui est effectivement rythmé de 15 jours en 15 jours. Soit on a une phase de séance d'instruction qui va déclencher une audience publique, soit on a réellement une audience publique la semaine suivante. Mais en fait, il y a jamais de phénomène de répétition ou de lassitude, parce que les sujets qui reviennent sont finalement sans cesse différents, quand bien même on a un groupe de matières qui ne varie pas. Alors après, bon, si on veut varier et changer les plaisirs, on peut aller voir dans une autre chambre. Alors moi, pour le coup, je l'ai un peu fait, parce que j'ai travaillé dans une chambre qui s'occupait principalement de responsabilité de la puissance publique, notamment de questions de responsabilité hospitalière. Comme Noémie, j'ai travaillé dans une chambre qui s'occupait du contentieux fiscal. Maintenant, une chambre avec plusieurs thématiques, dont les marchés, les questions de domaine, de voirie, de police au sens de police administrative. En fait, tous les jours, on se retrouve avec des tâches qui sont finalement à 80% dans la journée semblables, mais sur des matières, sur des sujets qui varient tout le temps. Et tout le temps, on a également des éléments nouveaux de procédure qu'on n'a jamais vus. Là, moi, avant de venir vous voir, j'étais sur quelque chose. Pourtant, ça fait un petit moment dans la maison. On m'a posé une question, j'étais absolument incapable d'y répondre. Et j'ai été obligé de faire des recherches pour finalement trouver une réponse. Mais la question ne s'était jamais posée à moi pour l'instant. Et c'est cet aspect-là de remise sur le métier, de remise de l'ouvrage sur le métier qui est intéressante et qui évite qu'on se sente un peu dans une routine. Donc ça, c'est le gros avantage de cette activité professionnelle. Ensuite, il y en a un autre, c'est que on est au contact de magistrats dont le niveau de réflexion, l'exigence de de qualité dans la conduite des procédures, dans la rédaction des arrêts, dans la clarté de l'expression juridique. Bon, c'est assez passionnant, si vous voulez. Moi, je compare ça à mon expérience de préfecture en tant que fonctionnaire de catégorie A à la préfecture. Si je voyais le préfet 3 minutes une fois dans le mois, je me sentais, alors j'exagère un tout petit peu, mais bon, relativement honoré. Là, je vois des gens du niveau du corps préfectoral toute la journée et avec qui je peux échanger en toute simplicité. Donc ça, c'est quand même aussi un très gros avantage. Et puis le dernier, passer le fait que c'est des matières qui soient, enfin, des questions qu'on renouvelle sans arrêt, qu'on est quand même au contact de gens extrêmement intéressants. Et le dernier, c'est qu'on a quand même malgré tout une dimension management et qui peut d'ailleurs pas se limiter à nos 2 agents parce qu'on peut avoir à intervenir avec d'autres agents de greffe, mais aussi parfois faire ce lien entre les magistrats et les agents de greffe. Donc, voilà, on contribue à mettre un peu de l'huile dans les rouages et donc ça fait partie, à mon avis, des 3 grands avantages du métier, mais il y en aurait d'autres. Je ne vais pas être trop long si vous voulez. En fin d'échange, je pourrais vous en donner d'autres.
Merci. Votre profession est-elle comme vous l'aviez imaginée?
Pas du tout. Alors, il faut savoir que j'ai passé un concours en externe, interministériel. Donc, on nous appelle pour des postes d'affectation, mais jusqu'au jour J, on ne sait pas quel poste on va occuper. Donc moi j'avais 2 possibilités d'affectation, j'avais soit la préfecture ou soit la cour. Je me suis renseignée et j'ai préféré aller à la cour sans réellement savoir que j'allais devenir greffière et je l'ai su le jour J où j'ai appris que j'allais manager une équipe, j'ai appris les grandes lignes de ce que j'allais faire à la cour. C'est vrai qu'auparavant, si on m'avait dit que j'allais devenir greffière, j'imaginais... Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui est en audience, assise, qui est en train de taper tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. J'imaginais quelque chose de très austère aussi, c'est vrai. Et quand je suis arrivée ici, au final, bon, j'ai été bien accueillie. Il y a beaucoup de bienveillance entre collègues greffiers et au sein des équipes, même en général à la cour. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu imaginer. Notamment, je n'avais pas non plus ce côté, même si on s'en doute un peu, il faut savoir que le métier de greffier, on passe par des applications maintenant qui font que le métier s'est beaucoup modernisé et qu'on n'est plus, comme on a pu me raconter auparavant, avec des grands chariots, avec une pile de dossiers impressionnante qu'on descendait en audience. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans les films et qui maintenant... n'apparaît plus dans mon imaginaire, en tout cas.
Moi, j'avais pas vraiment imaginé devenir greffier, alors je suis un peu embêté pour répondre à votre question, mais bon, plus largement, c'est un métier qui se rattache à l'exercice, on va dire, même si c'est peut-être un peu pompeux comme expression, mais qui se rattache à l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Et c'est plutôt ça, moi, que j'avais imaginé, si vous voulez, parce que dans mon esprit, être agent public, c'était d'abord être au service de la République, tout simplement. Donc, oui, c'est conforme à ce que j'imaginais, dans le sens où, quand je viens ici tous les jours et que j'exerce ma profession, j'ai quand même le sentiment et la satisfaction d'avoir passé ma journée à rendre vivante la justice et finalement à servir une forme d'intérêt général. Donc c'est très gratifiant quand on peut se le dire. Après, je ne sais pas, peut-être que je me rassure en me disant ça, mais j'y crois quand même beaucoup.
Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans l'exercice de votre métier et celui-ci vous passionne-t-il?
Je vais reprendre ce que Julien vient de dire. Donc, c'est vraiment le côté de servir l'intérêt général, comme je le disais tout à l'heure, de se sentir utile. Il y a aussi tout ce qui est, pour moi, c'est tout nouveau, donc comme on dit, tout nouveau, tout beau. Mais c'est vraiment le côté d'apprendre, c'est un nouveau défi aussi pour moi. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, on est amené à faire pas mal de recherches pour notre travail au quotidien ou en tout cas dans la semaine. Et le fait de ne pas stagner et de sentir monter en compétences personnelles, c'est gratifiant. Et notamment, on se sent en tant que greffier, on se sent porté par l'équipe. Je pense que chacun se porte les uns les autres pour, comme tu disais, que les rouages, il y a assez d'huile dans les rouages. Mais c'est vrai que s'il y a un élément qui ne marche pas au sein de l'équipe, ça peut être catastrophique. Et donc, chacun a envie que les uns les autres puissent enrichir son métier et ses connaissances. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce qui me passionne.
Et pour vous?
Oui, ce qui est motivant, effectivement, c'est que c'est là où moi j'ai trouvé une grande satisfaction devenant greffier. Alors que quand j'étais assistant du contentieux, ce n'était pas le cas. C'est que là, ce qui est motivant, c'est qu'on a vraiment l'impression de ne pas avancer seul dans son coin, mais d'être intégré à un collectif, en fait. Là, une chambre, c'est vraiment quelque chose qui se règle. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne fonctionne pas tout seul comme ça par miracle. Il y a un couple entre guillemets qui doit se former entre le greffier et son président de chambre pour qu'il y ait effectivement une synergie qui s'installe, qui est pas de blocage sur le déroulement des instructions. Et oui, ce qui est motivant, ouais, c'est ce travail d'équipe où on sent que toute l'équipe pousse dans le même sens. Et encore pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, et le sens fait sens. Le sens de pousser de l'équipe, il fait sens parce que c'est le sens de l'intérêt général, quoi. Voilà.
Quelles qualités faut-il avoir pour bien faire ce métier de greffier?
Faut être très organisé et très rigoureux. Il faut plusieurs qualités, il faut savoir manager, donc c'est pas quelque chose qui. On n'est pas manager, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, qui n'est pas aussi facile que ça. Beaucoup de minutie dans toutes les tâches qu'on peut réaliser, dans tout ce qu'on peut observer, dans tout ce qui peut passer devant nous. Faut savoir aussi. Faut savoir oser proposer des mesures quand quelque chose nous paraît évident et ne pas être timide face à nos magistrats. Faut dépasser tout ça.
Ouais, je pense que c'est ça. Alors, je pense que ce que tu rappelais, Noémie, la rigueur, ça c'est à peu près indispensable. C'est pas un préalable obligatoire d'être rigoureux pour devenir greffier. Moi, j'en suis une incarnation vivante. C'est-à-dire que je suis absolument pas rigoureux dans ma vie personnelle. Mais pour autant, quand on se glisse dans l'habit de greffier, si on n'est pas rigoureux, on reste pas longtemps greffier, hein. C'est juste pas possible. Alors, donc je pense que oui, il faut faire preuve de rigueur. À défaut d'être rigoureux, il faut faire preuve de rigueur. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un d'un peu désorganisé dans sa vie privée, mais là, il faut être très organisé. Et je suis d'accord avec toi, l'esprit d'initiative aussi est très important. C'est-à-dire cet esprit de s'interroger sur le sens de ce que l'on reçoit ou de ce qu'on nous demande. Et en fonction de cette interrogation, être capable d'aller proposer quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant, mais bon, moi, pour le coup, j'ai pas beaucoup d'expérience dans les autres juridictions. Alors, j'ai pas du tout travaillé dans le judiciaire, ni même en première instance dans la juridiction administrative, mais ce qui est très intéressant à la Cour, c'est que comme ça reste quand même une maison à taille humaine, on est capable de faire preuve un petit peu d'intérêt et d'esprit d'initiative, très rapidement en face, les gens s'en rendent compte. Et dans cette maison, on a la capacité un peu quand même à organiser les choses pour laisser plus d'initiatives, d'autonomie, voire de responsabilité aux gens. Et ça, c'est pas toujours vrai dans une grosse préfecture, par exemple. On a moins de marge de manœuvre pour dire, bon, bah, tu proposes ça, tu penses que c'est bien, et bah, je te laisse le faire. Et vous voyez, on arrive à manager des équipes avec un lien direct. Et du coup, ça, c'est intéressant. Donc, je pense que oui, il faut avoir ces qualités-là d'esprit d'initiative. Et on en est récompensé si on l'a, en fait.
Très bien. Comment échangez-vous aujourd'hui avec les autres professionnels du droit? Est-ce que vous avez des échanges?
Bah, alors, nous, les greffiers, par définition, on a des contacts quasiment quotidiens ou quotidiens avec les autres professionnels du droit que sont les avocats. Ça, c'est. Enfin, personnellement, moi, il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai un, deux, trois ou plus de contacts téléphoniques avec des avocats. Bon, on échange aussi avec eux, mais alors là, c'est beaucoup plus rapide dans le cadre des audiences. Et oui, le greffier, quand je vous disais, c'est la tour de contrôle, il voit atterrir ce qui arrive à la cour, mais c'est aussi, pas seulement une tour de contrôle, c'est aussi une porte d'entrée. Et donc, en fait, il y a énormément de. À chaque fois que les. Alors, si on reste sur la question des professionnels du droit, à chaque fois que ceux qui interviennent devant la cour comme professionnels du droit doivent chercher un interlocuteur, en général, c'est le greffier. Alors, c'est valable pour les avocats, c'est valable pour les experts également, hein, parce que la cour ordonne quand même des expertises. Moi, dans ma chambre, pas énormément, mais on en a quand même trois en cours actuellement, et c'est des très grosses expertises assez compliquées, où on a des experts, des sapiteurs, enfin bon. Et ça nous mobilise pas mal. On a reçu les experts à plusieurs reprises sur ces questions-là, comme le prévoit le code. Le code de justice administrative, on peut organiser des réunions avec l'expert et les parties. Ça a eu lieu, on l'a fait. Et puis, donc je parle des experts de justice, hein, bien sûr, quand je parle des experts, qui sont nommés dans le cadre d'une procédure contentieuse devant la cour. Voilà pour ce qui est enfin, moi personnellement, pour ce qui est des experts du droit, c'est principalement les avocats et les experts.
Moi, c'est également la même chose. J'ai beaucoup moins d'appels par rapport à toi, apparemment. Mais j'ai une matière qui ne prête peut-être pas à avoir des appels d'avocats. Après, on les rencontre en audience également. J'ai pas d'expertise dans ma chambre. Mais pour moi, en tout cas, de mon côté, depuis ces quelques mois, j'ai pas énormément de contacts avec les avocats, que ce soit au téléphone ou par mail. Les seules choses que je reçois de leur part, c'est leur mémoire ou leur production en réalité.
D'accord.
Bon, alors après, c'est vrai, juste pour c'est votre terme qui me fait penser. Comment échangez-vous avec les autres professionnels du droit? Bon, si on écarte la question des experts et qu'on revient à celle des avocats, en dehors des contacts téléphoniques, mais qui vont porter alors sur des questions purement matérielles, de jour ou de jour, de date ou de lieu, la procédure étant écrite à la cour, on va quand même reconnaître que 99,9% des échanges se font via l'application Télérecours, qui est donc une application dédiée aux communications entre la juridiction et les avocats, on va dire les parties pour être un peu plus large. Et l'essentiel de l'échange se fait obligatoirement, et il ne faut pas qu'on y déroge, dans le cadre de cette application Télérecours, qui a été la base de notre dématérialisation et qui fait que, comme l'indiquait Noémie tout à l'heure, les dossiers sont aujourd'hui des dossiers dématérialisés. Donc voilà, l'échange reste quand même dans le cadre de la procédure, toujours via télérecours. C'est une obligation. Et si quelqu'un tente de la contourner, notamment un avocat, il nous envoie un mémoire par mail, on lui fait régulariser sa production dans le cadre de télérecours, qui est une obligation.
À présent, quelle est votre relation avec les justiciables et les étudiants? Peut-être plus avec les justiciables pour vous.
Moi, comme je viens d'arriver depuis peu, je n'ai pas encore eu réellement de stagiaires à la cour. Donc, je vais commencer par les étudiants finalement. Je n'ai pas eu encore de stagiaires dans ma chambre, mais c'est vrai que la cour accueille beaucoup de stagiaires. Enfin, pour que ce soit des stagiaires de droit ou on a eu des personnes, des premiers stages, des petits troisièmes qui sont venus également. Donc pour le moment, moi, j'ai pas eu encore ce genre de relation avec des étudiants. Le justiciable, il faut savoir qu'à la cour, toute personne qui fait appel doit être représentée par le ministère d'avocat. Donc on a plutôt tendance à avoir des relations avec les avocats et pas directement avec le justiciable, qu'on rencontre quelquefois lors des audiences. Mais comme la procédure est écrite, ils n'ont pas obligation de venir les jours d'audience. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, pour ma part, alors tu me démentiras peut-être, pour moi, je n'ai pas énormément de contact avec les justiciables.
D'accord. Et pour vous ?
Oui, c'est pareil. Enfin, pour la question des justiciables, effectivement, le ministère d'avocat obligatoire en appel, ça est quand même une barrière ou un frein à entrer directement en contact avec les justiciables. Pour autant, on peut les avoir au téléphone, mais c'est pareil, on restera en dehors de toute discussion autre que des questions purement matérielles. Alors parfois, je ne vous cache pas qu'il y a des justiciables qui essayent de recueillir une information juridique qu'on s'abstient bien entendu de donner parce qu'on n'est pas censé. Et on n'a pas, surtout, on a interdiction de faire du conseil juridique, on a interdiction, c'est pas notre métier. Donc on en reste à des discussions avec les justiciables, si vous voulez, qui sont quand même assez, assez limitées. Avec les étudiants, bon, bah, outre le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, nous, on a, à la quatrième chambre, on a fréquemment des étudiants qui sont des étudiants avocats, en fait, pour devenir avocats. Et en général, et même... plutôt toujours, ça se passe très très bien. Ils sont très curieux et très vite et très bien intégrés dans la chambre. Donc c'est toujours des relations cordiales, sympathiques, où le tutoiement s'impose assez rapidement et le débriefing du week-end également. Mais au-delà de ces relations cordiales, en général, les étudiants sont vraiment curieux de découvrir le fonctionnement de la juridiction et on s'efforce de leur montrer quel est notre métier. Et puis, alors malheureusement, on ne peut pas le faire ici, mais de leur montrer un peu tous les outils qui sont à notre disposition, parce qu'on travaille avec plusieurs applications métiers, au moins trois qui interagissent entre elles. Donc, je vous ai parlé de télérecours. On a une autre application métier qui s'appelle Skipper, qui est interconnectée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long et trop compliqué, mais tout ça pour vous dire qu'on a au moins trois applications métiers interconnectées et que c'est l'occasion pour les étudiants de découvrir un peu comment la dématérialisation a été mise en œuvre à travers ces applications au sein de la juridiction administrative. Voilà, on a des très bonnes relations avec les étudiants.
Parfait. Quelles sont les évolutions de carrière possibles dans notre branche professionnelle ?
Alors écoutez, elles sont très grandes, parce que je vous dis ça un peu sous forme de plaisanterie, mais ça n'en est pas du tout une. On a connu des greffiers à la cour qui sont devenus conseillers d'État et présidents de cour administrative d'appel. Donc vous voyez, non mais c'est tout à fait vrai ce que je vous dis. Cela dit, les perspectives de carrière normale d'un greffier, s'il reste à l'échelle d'une cour, ça peut être déjà de changer de chambre, hein, ça c'est une perspective d'évolution pour voir d'autres contentieux. Ensuite, il y a plein de possibilités de passer sur il y a des possibilités de passer sur des fonctions plus spécifiques en dehors des questions de procédure et de quitter un peu le monde procédural du greffe pour aller vers des fonctions support qui gravitent autour de la fonction juridictionnelle. Et enfin, on peut éventuellement quitter la juridiction administrative pour aller vers d'autres cieux. Alors, il y a des gens qui restent dans le monde juridique en allant par exemple dans des chambres régionales des comptes où on retrouve une dimension un peu de juge, mais de juge des comptes et pas juge administratif. Et puis, il y a la possibilité pour certains, alors c'est un très gros investissement, mais c'est tout à fait possible. C'était le cas que je vous citais d'un président de cour devenu conseiller d'État. Il y a comme possibilité, si vous êtes vraiment passionné par le droit, de faire, grâce à des préparations qui sont organisées par le Conseil d'État, qui a un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation de la justice administrative, le CFJA, il y a la possibilité de préparer le concours de magistrat administratif. Et chaque année, il y a un recrutement qui est organisé. Et si vous êtes admis à l'issue du concours, bah, vous pouvez dérouler une carrière de magistrat. Après une formation au Conseil d'État et être affecté dans un tribunal administratif ou dans une cour. Enfin, donc du coup, les passerelles sont très nombreuses. On peut soit quitter la juridiction, soit vouloir s'y ancrer encore plus et plus fort et plus loin en étant magistrat, soit complètement changer de monde. Nous, on a des collègues qui sont partis au ministère de la Transition écologique, d'autres qui sont en préfecture. Il y a énormément de possibilités de rebondir et d'évoluer au sein de la maison et en dehors.
Oui, parce qu'en réalité, on possède notre grade. Donc, nous, enfin, toi, tu es du grade A, mais moi, en tant que greffière, je suis du grade B, mais on ne possède pas notre métier. Donc, on a la possibilité de pouvoir, comme tu disais, partir si on a vraiment l'envie de voir autre chose, partir sur un autre métier ou carrément changer de ministère. On a vraiment de vastes possibilités. Enfin, en tant que fonctionnaire.
Très bien. Enfin, avez-vous des conseils pour les étudiants souhaitant suivre la même voie que vous?
Bien vous renseigner avant. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous informer si vous connaissez, vous avez des contacts dans la fonction publique. Bien vous renseigner pour savoir ce que vous souhaitez faire. Choisir votre ministère, très important. Bien choisir votre ministère et une fois que vous souhaitez pa passer les concours, vous mettre une discipline de révision à pas déroger pour vraiment réussir et être avoir le poste, enfin avoir un poste qui pourrait vous intéresser et surtout peut-être dans un point géographique aussi qui vous intéresse parce qu'on peut être partout. Mais surtout, oui. Bien vous interroger et interroger toutes les personnes qui sont susceptibles de vous répondre. Et en général, vous trouverez toujours quelqu'un.
Et pour vous?
Suivre la même voie que moi, je ne sais pas, mais disons suivre la voie de la juridiction administrative. Je pense que en fait le meilleur conseil que je donnerais, enfin que je pourrais donner, c'est que il faut suivre son envie ou ses envies. Et si vous avez envie de vous orienter vers le monde de la justice administrative, du service de l'État, de l'intérêt général, le service public, si cette envie, vous la sentez en vous, mon conseil, c'est de suivre votre envie et normalement, ça devrait très bien se passer.
Très bien. Eh bien, nous vous remercions tous les deux pour cette interview qui, nous l'espérons, aura suscité peut-être quelques vocations chez nos auditeurs. Merci beaucoup à vous deux.
C'est nous qui vous remercions.